RCF.
La maison commune. Le magazine Nature et Environnement de RCF Isère avec Pierre Blanc.
Bonjour à tous, je reçois une chiroptérologue qui fait dans le conseil en aménagement du territoire. Chiroptérologue, elle s'occupe donc de chiroptères. Ce sont ces bébêtes méconnues comptant près d'un millier d'espèces, je crois, soit un cinquième des mammifères, le plus important après celui des rongeurs, je me suis bien renseigné. Autre indice, je viens d'apprendre que la ville de Marmande met des nichoirs pour les chiroptères pour lutter contre les moustiques tigres, car un chiroptère en mange 4000 par jour. Alors, au micro aujourd'hui, mon invité, Myrtille Béranger. Bonjour Myrtille Béranger. Alors, qui êtes-vous ?
Bonjour Pierre. Donc, je suis Myrtille Béranger. Je suis une femme curieuse et émerveillée de la nature. J'ai eu la chance de grandir dans les montagnes du Sud, ce qui m'a conféré rapidement une grande passion pour tout ce qui m'entourait, les oiseaux, les fleurs. Et ça m'a poussé progressivement à me lancer dans des études de biologie.
Les montagnes du Sud, c'est où ça pour nous ?
Alors le Mercantour, l'extrême sud-est de la France.
Bien sûr.
De très belles montagnes très proches de la mer.
Exact.
Voilà. Et aujourd'hui, j'exerce le métier donc d'écologue avec une spécialité en chiroptérologie.
Ah, la chiroptérologie. Alors, c'est quoi ? Beaucoup d'éditeurs connaissent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le sache.
Ce gros mot barbare, un petit peu, on va tout de suite penser bien sûr au chiropracteur qui travaille avec ses mains. Donc, chiro, c'est la main. Et le chiroptérologue, c'est celui qui étudie les chiroptères qui sont les chauves-souris. De chiro, la main, et de ptère, l'aile, puisque les chauves-souris volent avec une aile qui est faite de leurs mains.
Bravo, nous avons la signification exacte. Donc, les chauves-souris, vous avez dit que vous êtes montagnarde, vous êtes alpiniste, je crois même.
Un petit peu.
J'ai eu l'occasion un jour de vous apercevoir même équilibriste sur un fil, c'est pas ça ? Comment ça s'appelle cette discipline ?
La slackline.
Ah, alors ça, c'est... expliquez-le, ça peut nous aider.
Alors, la slackline, c'est une sangle qu'on tend entre deux arbres, pour mon cas, ou entre deux montagnes, pour les gens qui pratiquent la highline. Et on marche en équilibre, donc sur la sangle molle, littéralement, ce que ça veut dire en anglais. Et on n'a pas de balancier comme le ferait un funambule, mais on s'équilibre seulement avec son corps.
Alors voilà aujourd'hui une invitée très équilibrée, n'est-ce pas, qui va donc nous faire partager sa passion, d'autant que vous avez une passion naturaliste, mais c'est intéressant, vous allez nous la développer pour nous faire connaître un petit peu ces chauves-souris qui sont souvent méconnues, mais il y aura une petite surprise après parce que vous êtes invitée aussi, parce que vous vous occupez, comme je l'ai dit, d'aménagement ou de conseils en aménagement du territoire. Alors revenons à la chauve-souris. Expliquez-nous un petit peu.
Alors les chauves-souris, pour moi, comme beaucoup de personnes, c'est un groupe d'animaux qui est assez fascinant. D'abord parce qu'elles ont des adaptations complètement extraordinaires. Donc le vol déjà, donc on connaît les oiseaux. Mais donc le fait que les chauves-souris sont les seuls mammifères qui volent vraiment activement en utilisant leurs bras, leurs mains, par rapport à des écureuils volants qui n'utilisent que la surface de leur corps et qui planent. Donc elles ont ce vol déjà qui les caractérise. Elles ont également l'écholocation, donc c'est la capacité de se déplacer la nuit sans leurs yeux, mais par la vision de leurs oreilles.
La vision de leurs oreilles, oui, c'est très surprenant tous ces termes, mais ça explique quand même bien cette espèce.
Tout à fait.
Et la vision, donc Elles voient avec leurs oreilles, c'est ça que
c'est ça,
ça veut dire.
Hein. Alors imaginez, nous, la nuit, elles ont la même vision que nous. On parle souvent, enfin les gens me demandent souvent si les chauves-souris sont aveugles. Donc non, elles ne sont pas aveugles, elles sont juste un peu comme nous. Quand on est dans la nuit, on n'y voit rien. Mais elles ont l'avantage, elles, de faire de l'écholocation. Donc elles utilisent leurs cris. Les cris rebondissent sur les obstacles qui les entourent et les échos qui leur parviennent leur permettent d'imaginer leur paysage.
Alors, c'est écholocation, ça s'écrit avec un CH alors.
CH.
Oui, c'est pas écologie, c'est écho, oui, un écho. D'accord,
voilà.
J'apprends tout ça en direct à l'antenne, c'est très bien. Donc elle se repère comme ça, donc la nuit.
La nuit, voilà.
C'est une espèce qui vit donc apparemment beaucoup la nuit.
Voilà, donc c'est crépusculaire ou nocturne. Et nocturne, la majorité des chauves-souris donc, vivent la nuit. Certaines commencent à sortir alors qu'il fait encore jour. Mais ce sont vraiment des animaux nocturnes.
Oui. Et il y a quand même un imaginaire autour de la chauve-souris. On entend un peu tout et n'importe quoi.
Alors complètement. C'est un animal qui est assez mystérieux puisque vivant la nuit, les hommes ne pouvaient pas les observer. C'est que très récemment qu'on les observe aujourd'hui avec des caméras thermiques, avec des caméras infrarouges. Mais jusqu'à maintenant, à part les capturer ou les observer quand elles se cachent dans la journée, c'est impossible.
Et vous les suivez, vous suivez un petit peu ces populations sur le département dans l'Isère ou même ailleurs
Oui, tout à fait. Donc la conservation d'une espèce passe par sa connaissance, la connaissance de son écologie, mais aussi la connaissance de ses populations. Et aujourd'hui, donc dans mon travail, mais aussi dans des activités bénévoles où je soutiens des associations localement, nous suivons des colonies pour justement connaître l'évolution des populations, mais aussi leurs déplacements. Et donc, par rapport à toutes ces méthodes qui sont développées, on utilise des méthodes très spécifiques. Donc, je vous ai parlé de la capture, mais aussi de la télémétrie. Donc, il s'agit d'équiper de petits animaux avec un émetteur radio et de les suivre avec des antennes pendant une quinzaine de nuits, du moment où la chauve-souris sort de son gîte jusqu'au moment où elle va se coucher, pour arriver à déterminer où elle passe, à quelle heure elle sort, à quelle heure elle re-rentre, est-ce qu'elle re-rentre en cours de nuit, des choses comme ça.
C'est une espèce en voie de disparition, non ? Oui ?
Alors, toutes les chauves-souris sont protégées en France. Après, il y a des populations, enfin, parmi toutes ces espèces, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la chauve-souris souvent, mais il faut savoir que la chauve-souris, ce sont plutôt les chauves-souris, puisqu'il y a 34 espèces en France. Et que dans toutes ces 34 espèces, il y en a qui se portent très mal, avec des diminutions assez importantes depuis les 30-40 dernières années. Il y a des espèces qui se portent un petit peu mieux, on va dire. Mais voilà, le recul n'est quand même pas évident, puisque le suivi des populations n'a qu'une cinquantaine d'années.
Et s'il y a recul de ces populations, en nombre, cela vient de quoi ? Quelles sont les causes en fait ?
Alors, les chauves-souris en France et en Europe sont essentiellement insectivores. C'est-à-dire que ce sont des bons agents de lutte contre les insectes. Donc, vous parliez de marmande et justement du moustique tigre. Donc, ce sont nos alliés par rapport à ces pullulations d'insectes non désirés. Mais à côté de ça, elles vont donc manger des insectes. Donc tous les produits phytosanitaires, insecticides, peuvent leur porter préjudice. Mais aussi, elles sont victimes du changement de leur environnement, du paysage, de l'activité humaine qui modifie ces paysages. Et elles vont pas arriver à finalement se déplacer correctement, ou elles vont devoir se déplacer beaucoup plus, dépenser de l'énergie. Et ce qui peut mettre un petit peu à mal leur survie.
Je vais oser l'image. On a en quelque sorte, si je vous comprends bien, un insecticide, entre guillemets, naturel, la chauve-souris, qu'on arrive à éliminer par un insecticide chimique. C'est un peu ça, parfois. C'est un peu cette impression que ça me donne. C'est plus ou moins juste, mais il y a de ça.
Oui, ça peut, effectivement.
Quand même, au niveau chimique, on arrive à faire reculer les espèces. Ce n'est pas la seule, hein, on le sait. Ce n'est pas tout à fait le but de notre mission aujourd'hui. Mais à travers, je dirais, le suivi que vous faites des chauves-souris, vous découvrez quoi par rapport à la survie des espèces? Qu'est-ce qu'il faut faire pour elles, notamment j'ai une chauve-souris derrière mon volet. Qu'est-ce que je fais? Je n'ouvre plus mon volet, je la chasse. Non.
Alors aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses pour les chauves-souris. Et en faisant pour les chauves-souris, on fait aussi pour les autres animaux. On va dire que la chauve-souris, souvent, est un groupe d'espèces un peu indicateur ou parapluie. Donc les chauves-souris ont besoin d'un endroit pour gîter la journée, donc où elles se cachent, et c'est souvent des maisons. Donc la prise en compte des chauves-souris, la conservation des endroits où elles se tiennent dans les maisons est primordiale, car il y a à peu près 70% des espèces françaises qui nichent dans les maisons en été et où elles vont se reproduire. Alors il faut savoir qu'elles ne détruisent pas l'isolation quand elles sont dans les toits, elles ne grattent pas, elles ne sont pas comme des rongeurs, par contre elles se cachent seulement. Et les désagréments qu'on peut avoir, souvent, c'est quelques crottes. Les crottes peuvent être utilisées comme engrais, donc c'est un avantage. Mais à côté de ça, voilà, il faut essayer de cohabiter le plus possible avec la nature sous son toit.
Et donc, c'est 70% dans les maisons. Il y a une attraction de l'habitation ou c'est plus facile pour elles de se poser dans ces lieux-là?
C'est plus facile d'une certaine manière parce que c'était un petit peu plus facile, on va dire aussi, parce qu'il y avait avant, c'était beaucoup plus agricole. On avait des granges, on avait des combles. Avec un petit peu l'évolution de l'habitat, il y a beaucoup de rénovation des combles. Aujourd'hui, les combles sont utilisés, tous ces espaces en fait ont tendance à disparaître et les chauves-souris vont se réfugier. Plus dans les maisons, mais il y en a qui occupaient avant des cavernes, des grottes ou aussi des arbres suffisamment grands pour avoir des cavités importantes. Voilà, donc après, c'est un petit peu un tout. La production de bois, des fois, n'est pas compatible avec la préservation des chauves-souris qui vont être arboricoles. L'urbanisation, la rénovation de l'habitat n'est pas forcément favorable avec le respect aussi de certains endroits pour les chauves-souris.
Sur l'histoire de tout le mythe qui tourne autour de la chauve-souris, il y a des études qui se font. Pourquoi c'est venu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment combattre ça? Au niveau de l'éducation, tout simple, même des enfants et autres, vous avez des choses là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors les chauves-souris ont souvent fait partie de mythes un petit peu liés aux démons, à toutes ces choses-là. D'ailleurs, on représente souvent des monstres avec des grandes ailes ou les dragons avec des ailes qui ressemblent exactement aux ailes de chauves-souris. Il y a aussi, bien sûr, le conte de Dracula qui a fait, entre guillemets, beaucoup de mal aux chauves-souris. Mais il y a une vérité derrière tout ça, c'est que les vampires existent, puisque dans toute la diversité des chauves-souris qu'on a dans le monde, il y a des espèces de vampires qui existent. Donc il y a à peu près 4 ou 6 espèces, je ne sais plus exactement, mais qui sont donc d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Et ce sont des chauves-souris qui se nourrissent de sang. Mais ce ne sont pas des chauves-souris qui font 1 mètre d'envergure. Ce sont des petites chauves-souris.
Alors, on va me dire, mais comment ça se fait? Il invite une chiroptérologue, je reprononce bien, c'est pas si facile, et il nous dit à l'entrée, mais elle fait dans le conseil en aménagement du territoire. Le lien entre les deux, ma question est simple, pourquoi cette experte naturaliste en vient à créer, je crois, son entreprise? Il faudra nous expliquer ça dans un petit moment, mais vous pouvez déjà nous en parler une seconde.
Alors, la prise en compte de la faune et de la flore est aujourd'hui, est depuis 40 ans, puisque la loi date de 1976, et à 40 ans cette année, donc c'est la première loi de protection de la nature, a instauré le fait qu'il faut intégrer la dimension naturelle dans les études d'impact. Et à ce moment-là, dans le cadre des études d'impact, il faut travailler sur la nature et adapter les projets pour essayer de préserver l'environnement.
Donc il va vous arriver une idée subite, vous allez bien nous expliquer tout ça. Vous allez créer à partir de cette conviction une entreprise qui va s'appeler Diagnostic Nature, c'est ça ?
Tout à fait.
Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regarder passer le temps. Sur une île du Pacifique, la nuit leur donna deux enfants, un curieux et un sympathique, qui écoutait passer le temps. Le premier, toujours en retard, l'autre debout tous les matins. Le premier a pris la guitare, l'autre étudia politicien. L'inspiré resta au village, il devint simple musicien. Le pressé partit en voyage pour se faire oublier des siens. L'a étudié 10 ans à l'université.
Je reçois donc aujourd'hui Myrtille Béranger, montagnarde, alpiniste, qui a une forte passion de naturaliste auprès des chauves-souris, nous venons de l'entendre. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle en vient à créer une petite entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça, Myrtille Béranger. Merci encore d'être là.
Donc oui, j'ai créé mon entreprise en 2009 qui s'appelle Diagnostic Nature. Alors c'est une entreprise individuelle où je travaille seule aujourd'hui et qui s'occupe donc d'environnement naturel et qui assiste les porteurs de projets ou les collectivités dans leurs projets d'aménagement ou de gestion de la faune et de la flore.
Tout ça parce que vous avez la conviction qu'il faut d'abord, il y a une loi de 76, vous l'avez rappelé, sur la protection de la nature. Et donc vous avez le souci de pouvoir donner quelques conseils donc à des gens qui veulent faire de l'aménagement du territoire, c'est ça?
Tout à fait.
C'est tout simple que ça. Et donc l'idée vous est venue parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il y a comme danger dans nos perspectives d'aménagement du territoire qui font que notamment les chauves-souris pourraient disparaître, c'est lorsqu'on aménage n'importe comment?
Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir cette loi qui a un petit peu régi les choses, mais on se rend bien compte que l'enjeu collectif ou l'intérêt général aujourd'hui n'est pas forcément le moteur du développement. Et par ce biais-là, on aurait tendance, s'il n'y avait pas de garde-fous, entre guillemets, pour protéger et pour préserver notre territoire, qu'on aurait tendance peut-être à tout bétonner, à tout imperméabiliser, et on observerait des catastrophes, comme on en observe malheureusement ces jours, qui seront contre les populations qui vivent là. Donc finalement, le conseil que je peux faire, alors moi sur une petite partie, puisque j'interviens sur la partie environnement naturel, et en plus spécifiquement sur les chiroptères, les chauves-souris, rentre dans un tout où on va étudier à la fois le paysage, les oiseaux, la flore, mais aussi le bruit, les différents impacts, pour essayer de trouver le compromis le plus juste entre la préservation de l'environnement et l'économie.
Vous auriez un exemple pour bien nous faire comprendre d'une réalisation que vous suivez actuellement ou autre, les conseils que vous pouvez donner? Comment ça se passe en fait? C'est un aménageur qui vous contacte ou vous contactez l'aménageur?
Alors c'est assez divers. Soit je suis contactée par un autre bureau plus grand, donc un bureau d'études qui lui contrôle un petit peu, s'occupe de l'intégralité de l'étude d'impact. Et dans ce cas-là, je ne suis qu'une petite pierre à l'édifice, soit je suis contactée en direct par un porteur de projet, une entreprise. Alors, par exemple, comme réalisation, on peut imaginer, j'avais travaillé il y a quelques années sur la jonction autoroute A89 A6. Donc, dans le contournement de Lyon, au nord de Lyon, donc une partie qui est aujourd'hui encore en national, mais qui sera amenée à devenir une bretelle d'autoroute pour relier ces deux grandes autoroutes. Et le projet était de voir à l'époque l'étude des chauves-souris, est-ce qu'il y avait des chauves-souris, des enjeux, et comment on allait pouvoir agrandir cette voie pour permettre cette jonction. Et la réalisation, ça va être de dire, bah, là par exemple, il y a une haie, une structuration de haies, donc de trames vertes et bleues, vous avez pu entendre, donc là c'est des trames vertes, des alignements de haies, d'arbres qui sont importantes pour la faune, pour leur transit, et comment on va intégrer ou conserver ces alignements pour quand même réaliser le projet, mais conserver quand même le déplacement de la faune à travers l'ouvrage, mais aussi sur le long de l'ouvrage.
Et vos conseils sont pris en compte ou sont repoussés, sont traités de haut?
Non. Alors, les porteurs de projet intègrent ça. Et puis après, alors ce dossier, il est présenté donc au service de l'État. Et c'est l'État qui va accepter ou non les permis de construire. Donc, les dossiers doivent être faits très consciencieusement. Et ce sont vraiment des dossiers conçus en tout cas avec les parties pour qu'ils soient le plus dense, le plus... Alors dense, c'est vrai que ce sont des dossiers très denses, mais le plus compréhensible, le plus complet possible pour répondre aux questions que pourrait se poser l'État et surtout pour que l'État puisse accepter le projet.
Oui, en quelque sorte, je vais provoquer un petit peu. Vous réfutez cette idée que les écolos, comme on dit, apparaissent souvent comme des enquiquineurs qui empêchent tout aménagement. Ils ont trouvé la petite fleur qui va bloquer l'autoroute, la chauve-souris qui va bloquer le pont suspendu. C'est pas tout à fait ça. C'est pas votre but, d'abord. C'est pas de bloquer, c'est de conseiller, de faire réaliser correctement.
Oui, tout à fait. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on parle souvent d'un petit crapaud qui a stoppé l'extension du port du Havre ou qui une petite grenouille ou une chauve-souris. Mais malheureusement, l'idée, elle va beaucoup plus loin que ça. L'idée, elle va sur le fait que on doit prendre en compte cette nature. Alors bien sûr, peut-être qu'elle se cristallise dans le petit crapaud ou la petite grenouille ou la petite fleur, mais au-delà de ça, c'est une fonctionnalité d'un habitat, d'un écosystème. C'est la prise en compte d'une population, de déplacement. Ça va vraiment plus loin. Et effectivement, aujourd'hui, ça m'est arrivé de travailler avec des porteurs de projets qui se lançaient un petit peu dans ce genre de démarche et qui était complètement stupéfait de voir que parce qu'une petite espèce était là et qu'elle était protégée, leur projet allait prendre du retard. Et ça, c'est dramatique parce que c'est vrai que ça coûte énormément d'argent. Par contre, en comprenant la démarche, les dossiers sont construits après avec plus de sérieux et aussi plus professionnellement, je dirais. Et là, il passe assez bien, très, très facilement. Et on gagne du temps, et tout le monde gagne du temps et de l'argent.
Ça veut dire qu'il y a parfois des retours intéressants de gens qui se sont peut-être crispés un moment et puis qui découvrent, surtout s'ils s'y sont pris très tôt, en amont, qui découvrent que l'impact sur leur projet est au contraire très positif. Ça arrive, je pense.
Complètement, complètement, oui.
Vous avez d'autres projets plus petits ou plus là où vous étiez sur le circuit lyonnais, j'allais dire. Vous êtes plus aussi sur parfois en montagne ou dans l'Isère.
Oui, alors là, je vous parlais d'aménagement du territoire, mais je travaille aussi pour la conservation des espèces. Et là, donc c'est bien aussi parce que malheureusement, quand je travaille sur l'étude d'impact, ce que je découvre souvent va être détruit. Donc c'est aussi être souvent un petit peu frustrant, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le moins détruit possible. Les autres projets vont être plus sur de la conservation, et dans ce cas-là, c'est de la connaissance, donc de l'inventaire, avec derrière des préconisations de gestion. Et là, j'ai eu la chance de travailler notamment sur un espace naturel sensible sur le massif du Vercors, pour le parc naturel régional qui s'appelle l'ENS du plateau de la Molière et du Sornin, que vous connaissez peut-être bien.
Oui, on connaît, les grenoblois connaissent bien.
Voilà. Et donc, c'était une étude très intéressante, puisqu'on a pu dénombrer 19 espèces de chauves-souris. Et parmi elles, bien sûr, on est dans un paysage d'alpage, mais aussi un réseau karstique important avec des grottes un réseau en tout cas de grottes très important. Et donc il y a un réel enjeu entre le milieu pâturé et les forêts de la Morlière et du Sornin, et puis ces milieux souterrains qui nous révèlent encore bientôt peut-être tous leurs secrets.
Je vous sens un petit peu optimiste malgré tout sur l'avenir de la planète, ce qui se joue dans cette cohabitation entre l'homme et la nature. Votre entreprise, elle est un petit peu là au milieu, elle essaye. Elle est toute petite, vous êtes toute seule à travailler pour l'instant dans cette entreprise. Elle fonctionne bien.
Oui, j'ai la chance d'avoir du travail.
On vous souhaite de poursuivre et d'avoir cette sollicitation pour l'aménagement. C'est l'heure de la petite phrase de la semaine qui va permettre à mon invité, Myrtille Béranger, dont le titre de cette émission vient d'elle, hein, « Expertise naturaliste et projet d'aménagement du territoire », un beau titre. C'est le moment de faire la conclusion à partir de cette phrase que je vous demande de lire en direct. Vous la découvrez à l'antenne.
Alors, « Ayez un rêve assez grand pour pouvoir le suivre des yeux ».
Ayez un rêve assez grand pour pouvoir le suivre des yeux. Quelques secondes de réflexion et votre conclusion. C'est une citation de William Faulkner. Et merci Myrtille Béranger, on vous écoute pour cette conclusion.
Alors le rêve que je pourrais avoir, c'est que aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à opposer préservation de la nature, préservation de l'environnement et développement économique ou en tout cas intérêt humain. Et je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas justement créer ces oppositions, mais justement essayer de mettre ensemble l'homme et la nature. Et c'est une conciliation qui doit se faire parce que l'homme fait partie de la nature et ne doit pas être contre elle. Voilà. Donc il faut absolument qu'on puisse se développer suffisamment, mais justement en conciliant la nature.
Eh bien, merci Myrtille Béranger. La semaine prochaine, je recevrai Thierry Gameau, le maire délégué d'Autran.
Personne pour danser, y'a qu'à jouer, y'a qu'à aimer, y'a plus personne à aimer. Le fréon, le musicien, sa chanson frère politicien, au bureau de ce dernier, se rendit d'un pas décidé. Le pressé, que deviens-tu? Sais-tu qu'au village on nous tue, qu'on fout le feu à nos cabanes, qu'on nous empêche de vivre nu? Mon frérot, comprendre par ma position. Mon frérot, je suis chef des institutions. Et vois-tu, cher ami, si les gens savaient d'où je viens, bien vois-tu, cher ami, je ne serais plus politicien. C'est pourquoi, cher monsieur, j'ai donné l'ordre d'évacuer sans attendre dans la nuit les gens de l'île où je suis né. Mon frérot, dit le musicien, tu t'es perdu dans tes papiers. Toi qui n'as jamais si nagé, tes yeux semblent s'emplir de larmes, je m'en vais laisser te noyer. pacifique. L'amour reprit les deux enfants, l'un heureux de sa musique, l'autre rongé par ses tourments. Y'a qu'à danser, la mère nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, la canne à sucre nous fait le rhum. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Y'a qu'à danser, la mère nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Thank you.